Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 44e et dernière soirée d'éthique publique de l'année universitaire des facultés jésuites de Paris. Dernière soirée de l'année. Il n'est sans doute pas inutile, vous savez, chez les jésuites, on aime bien faire des relectures, de faire mémoire ensemble des différents thèmes, des différentes questions que nous avons essayé d'aborder ensemble tout au long des premiers mardis de chaque mois. Donc, juste pour l'évoquer, je sais qu'il y a des gens ici très fidèles, donc qui se souviendront de ce qu'ils ont aussi entendu toute cette année. Le mardi 2 octobre, nous avons réfléchi au Proche-Orient. Que faut-il craindre au Proche-Orient? Que peut-on encore espérer? Avec Ignace Leverrier, Luc Balbon et Antoine Sfer. Le mardi 6 novembre, pourquoi le mariage homosexuel pose-t-il problème? Avec Paul Valadier et Marie-Christine Le Boursicot. Le mardi 4 décembre, fin de vie, quelle société voulons-nous? En partenariat avec l'hebdomadaire Pèlerin, avec le père Patrick Verspiren et le docteur Marie-Sylvie Richard. Le 8 janvier, c'était le thème de l'Europe. Quelle Europe voulons-nous? Quelle Europe pouvons-nous? Avec Alain Lamassoure et Jérôme Vignon. Le 5 février, où en est la laïcité à la française? Avec Guy Coq et Philippe Portier. Le 12 mars, en partenariat avec le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, la médecine doit-elle et peut-elle rester un service public? Avec le professeur Didier Houssin et le professeur Guy Valencien. Le 2 avril, évidemment, les chantiers du nouveau pontificat. Quelle église pour notre monde? Avec Isabelle de Golemin, Mgr Éric de Moulin-Beaufort et le père François Heuvé. Enfin, le mois dernier, le 14 mai, en partenariat avec la revue Projet, à quoi sert l'enseignement catholique avec Claude Berruet et François Dubet. Grande diversité donc de thèmes, de sujets, des intervenants aussi qui, il faut le souligner, ont toujours manifesté leur intérêt et leur disponibilité pour ces soirées malgré un agenda bien chargé, et nos invités de ce soir en sont d'ailleurs encore une illustration. L'année se termine, mais nous espérons vous retrouver dès octobre prochain pour continuer à faire vivre cette proposition qui, votre présence nombreuse, cette année parfois même très nombreuse, certaines soirées, fidèles, mois après mois, l'attestent. Une présence qui semble rejoindre les attentes et les préoccupations de beaucoup à partir des questions qui, de près ou de loin, concernent notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle, internationale. Et bien sûr, tout indique que nous aurons l'année prochaine de nombreux sujets d'éthique publique sur lesquels il nous faudra réfléchir ensemble. C'est aussi une joie d'avoir cette année, je dirais, élargi l'espace de notre tente et d'avoir chaque mois retrouvé nos amis de Bordeaux, nombreux et fidèles, autour des jésuites de la paroisse Notre-Dame-des-Anges, que je salue ce soir. Les amis aussi de Lyon autour de l'espace Saint-Ignace et l'une ou l'autre soirée en lien aussi avec des auditeurs à Poitiers. C'est un enjeu qui nous tient à cœur de prendre les moyens pour nous tenir autant que c'est possible, informer des questions qui traversent notre société, notre monde, nos vies. Important d'avoir des espaces de dialogue simples et sans prétention, mais où une parole personnelle, libre et respectueuse d'autrui est possible. L'objectif, il est bien d'essayer de nous donner les uns aux autres, brièvement, trop brièvement malheureusement, parce que le temps est court et les sujets souvent complexes, un certain nombre d'éléments de compréhension et d'analyse, et de pouvoir ainsi repérer des critères ou des pistes qui nous permettront de continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres, parce que derrière les questions économique, politique, sociale, internationale, il y a, nous le savons, des questions de sens, des enjeux éminemment spirituels. Pour accompagner ces réflexions, vous avez dû trouver sur vos sièges, mais vous pouvez le retrouver sur le site internet du Centre Sèvres, quelques propositions du département d'éthique publique pour la prochaine année universitaire. En espérant que plusieurs de ces propositions rejoignent vos préoccupations, vos centres d'intérêt, je me permets de mettre en lumière une proposition nouvelle. C'est le cycle de conférences sur les enjeux de défense, 5 samedis en matinée avec des spécialistes pour faire un tour d'horizon précis des questions de défense, des enjeux de sécurité internationale aujourd'hui, et puis aussi dans la gamme des propositions, eh bien, il y a quelques valeurs sûres. L'excellent cours du père Baudouin Roger sur les liens entre Église et économie, présentant ce que dit aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église, ou bien le cours de Luc Balbon pour comprendre le Proche-Orient, bien utile aujourd'hui, ou encore celui de Jean-Luc Poutier, les liens entre morale et politique, là aussi sujet d'actualité qui n'est pas très éloigné de ce que nous allons aborder ce soir. J'arrête là mon opération promotion. Vous aurez le temps de choisir ce qui vous semble le plus approprié et d'en parler autour de vous. Je rappelle qu'il est toujours possible d'écouter ou de réécouter la plupart des soirées d'éthique publique sur le site internet du Centre CEF, www.centrecef.com, et qu'il est possible également de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez recevoir l'annonce de la prochaine soirée. Ces soirées sont les vôtres. Alors, ce soir, pour terminer l'année, et avant des vacances bien méritées, nous allons nous arrêter sur un sujet qui occupe beaucoup l'espace médiatique, qui peut-être parfois nous agace, c'est celui des relations entre le journalisme et la politique. Les relations entre les médias et les lieux de pouvoir, les journalistes et les hommes politiques n'ont jamais été simples. Entre connivence, servilité, recherche de la petite phrase et du scoop, journalistes d'investigation, rumeurs sur la vie privée, il n'est pas toujours facile à l'information, à l'analyse sérieuse et honnête de faire son chemin. Alors est-ce une fatalité? Comment parvenir à une juste distance? Pour répondre à ces questions, je suis très heureux d'accueillir trois journalistes situés différemment qui suivent les questions politiques depuis plusieurs années. Jérôme Chapuis, à ma droite, au bout de la table. Jérôme Chapuis, chef adjoint du service politique de RTL. Dans le supplément télévision du Monde, il y a une dizaine de jours, il y avait une présentation très élogieuse, aussi élogieuse que vraie, je cite, « Les apparences sont trompeuses, avec son allure juvénile, Jérôme Chapuis paraît encore plus jeune que ses 36 ans. Il a pourtant derrière lui 14 années de journalisme, dont 10 passées à Europe 1, une voix de radio, un physique de télé et depuis quelques mois, une réelle visibilité médiatique. » En effet, Jérôme, vous animez un grand rendez-vous politique qui est le grand jury sur RTL. Depuis septembre dernier, vous avez succédé à Jean-Michel Apathy chaque dimanche soir à 18h30. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, vous avez été, après vos années à Europe 1, rédacteur en chef adjoint, je crois, de la chaîne iTélé, et vous êtes l'auteur de deux ouvrages. Avec Yaël Gauss, « Les étés meurtriers », Les politiques ne prennent jamais de vacances, chez Plon en 2011, et avec Benjamin Sportouche, Le naufragé, l'histoire secrète d'une descente aux enfers, un ouvrage sur la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy chez Flammarion l'an dernier. Ce que le monde ne disait pas, c'est que vous avez fait, pourrait-on dire, vos premières armes médiatiques aussi, dans une excellente revue qui était à l'époque animée par les jésuites, la revue Croire aujourd'hui. Merci, cher Jérôme, d'être avec nous ce soir. François Ehrenwein, vous êtes bien connu de beaucoup d'entre nous qui sont des fidèles lecteurs de La Croix, quotidien dans lequel vous travaillez depuis de nombreuses années, après notamment des études à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et de relations internationales, d'affaires internationales à la Sorbonne. Vous êtes l'un des rédacteurs en chef de La Croix, après avoir eu notamment la responsabilité, entre autres choses, du site lacroix.com. Éditorialiste, vous êtes depuis de nombreuses années un observateur attentif de la vie politique française, membre du comité de rédaction de l'excellente revue Études. Vous vous intéressez aussi, ce n'est pas surprenant, aux évolutions et aux enjeux du métier de journalisme. Vous intervenez ainsi dans plusieurs lieux de formation de jeunes journalistes, comme l'École de journalisme de Sciences Po Paris ou le CELSA. Et vous êtes membre, je crois, du conseil d'orientation du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez collaboré à plusieurs ouvrages, dont celui sur la liberté religieuse et la Convention européenne des droits de l'homme, paru chez Bruylant il y a quelques années. Merci François d'être avec nous ce soir. Enfin, Christophe Jakubicine, vous êtes actuellement directeur adjoint chargé du service politique de TF1-LCI, mais votre parcours vous a conduit aussi à bien connaître la presse et la radio. Ancien de Sciences Po Paris, vous avez collaboré au quotidien Le Monde pendant plusieurs années. Vous avez été rédacteur en chef adjoint des pages économiques, vice-président de la Société des rédacteurs. En janvier 2009, vous êtes nommé directeur de la rédaction de RMC. Et puis 3 ans après, je crois, avant les élections présidentielles de 2012, vous rejoignez la chaîne de télévision d'information en continu.
C'est des concomitants.
C'est des concomitants.
Les 4 années ont été RMC et BFM TV.
Voilà. Voilà. Où vous présentez notamment la chronique politique 2012 à 7h50 du lundi au vendredi. En décembre dernier, vous quittez BFM TV pour le groupe TF1 et vous devenez, je le disais, directeur adjoint chargé du service politique, assurant également la fonction d'éditorialiste au sein des journaux télévisés. Vous êtes l'auteur d'ouvrages sur le monde politique, Le Chouchou, le fabuleux destin de Xavier Bertrand, avec Muriel Plenet aux éditions Anne Carrière en 2008, et plus récemment, un ouvrage qui a fait parler de lui, La Frondeuse, Valérie Trier-Veller, avec Alix Bouillaguet aux éditions du Moment en octobre dernier. Ouvrage qui n'a pas plu à la compagne du président de la République et qui vous a valu, ainsi qu'à Alix Bouillaguet et à votre éditeur, de comparaître devant la justice pour atteinte à la vie privée. La question qui nous intéresse ce soir, journalisme et politique, quelle distance adopter, n'est donc pas pour vous purement théorique. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de nous apporter votre éclairage. Alors, sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à nos invités pour 15 minutes environ chacun, avant, comme nous en avons l'habitude, eh bien, d'engager le débat tous ensemble. Et nous commençons par le plus jeune. Merci Jérôme.
Merci. On m'entend là, c'est bon ?
Oui, parle oui. Bien.
Non, c'est bon, d'accord.
Bien.
J'ai l'habitude des micros, mais pas l'habitude de parler devant un public. Je voulais simplement vous apporter un témoignage. Alors, pas sur mon activité actuelle, c'est encore un peu frais depuis septembre dernier, mais sur les pratiques, les questionnements, les difficultés que j'ai rencontrées depuis que j'ai découvert le journalisme politique en 2006 à l'occasion de la campagne électorale de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui fait que ça peut être compliqué, les relations avec les hommes et les femmes politiques ? Ce qui m'intéresse au-delà des rencontres qu'on fait, des dossiers qui sont souvent passionnants, qu'on traite, c'est que c'est un exercice de conscience et de discernement, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mes premières impressions de journaliste politique sont, je vous le disais, pas très lointaines, et la première chose qui m'a surpris à l'automne 2006, quand j'ai intégré le service politique d'Europe 1, c'est la facilité d'accès aux personnalités. On se retrouve très vite, en reportage, dans un train, dans un avion, bon, des déjeuners aussi, on pourra en parler si vous le souhaitez, parce que souvent ça intrigue, les déjeuners entre les journalistes et les hommes et les femmes politiques, à discuter avec ces gens, tout simplement parce qu'ils ont intérêt à nous rencontrer, ce sont des hommes et des femmes de relation, ils ont intérêt à entrer en contact, et leur premier mode de relation, c'est la séduction. On dit souvent que ce sont des hommes et des femmes qui ne comprennent que le rapport de force. Je peux témoigner qu'en tout cas, avec les journalistes, au niveau des reporters, en tout cas, cette question du rapport de force est moins présente. Ils sont dans une espèce de séduction permanente. Et c'est en ce sens que les premiers pas d'un journaliste sont assez faciles. Et en même temps, c'est là que se situe sans doute le premier écueil. Parce que quand vous êtes jeune et que vous avez une personnalité politique qui vous prend par le bras, qui vous tape sur l'épaule, qui vous demande des nouvelles de vos enfants, qui vous séduit. Vous avez vite fait de vous griser, mais il faut bien comprendre qu'évidemment ce qui l'intéresse, c'est la couleur du micro et ce que vous retiendrez de son discours dans le reportage qui sera diffusé le lendemain. Donc vous comprenez bien que cette relation, elle est nécessairement intéressée. Nous, les journalistes, on a intérêt à connaître les politiques et donc à les fréquenter. Et ça, c'est très important, parce que bien souvent, le mot connivence a été prononcé, mais ça fait partie de notre boulot de les fréquenter, les journalistes, pour le cas échéant, décrocher le scoop, parce que ça aussi, ça fait partie de notre travail. La bonne interview, au bon moment, il faut être au courant de ce que ces gens ont à dire. Il faut discuter avec eux. Et eux, ils ont intérêt à nous séduire parce qu'on est des relais d'opinion, parce qu'on est des agents de leur réputation. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut assumer aussi que nous sommes, nous journalistes, des hommes et des femmes de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on met un petit peu de temps à apprendre, mais il faut, je crois, qu'on l'assume. Et les pouvoirs ne vont pas sans contre-pouvoir. On aura sans doute l'occasion d'en dire un mot. Ce greffe sur cette relation d'intérêt, à mon sens, le risque d'une double griserie. Les hommes et les femmes politiques, je peux en témoigner, sont souvent grisés, notamment les plus jeunes, quand ils commencent, les jeunes députés, les jeunes ministres. Ils sont grisés de passer dans les médias. Et même au plus haut niveau, je peux vous dire aussi que j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire que l'apparition dans les médias agissait sur lui comme une drogue. C'est assez saisissant, mais il s'inquiétait pendant la dernière campagne présidentielle. Il avait évoqué, ça avait été rapporté, l'hypothèse de la défaite, et il avait dit « ce sera sans doute très difficile de se défaire de tout ça en parlant de nous, en parlant de la satisfaction qu'on peut éprouver dans les médias ». Donc il y a cette griserie, ce risque de griserie de la part des politiques, et puis de notre part, de notre point de vue à nous, on peut se laisser griser assez facilement dans le fait de côtoyer au quotidien le pouvoir. C'est vrai que c'est pas banal au départ de pouvoir pénétrer dans les ministères, à l'Élysée, d'avoir des discussions avec tel ou tel conseiller. On a un peu l'impression d'être là où ça se passe. Et là aussi, ça implique une forme de... une distance. À partir de là, sur quel mode de relation on doit fonctionner ? Tout le problème, c'est effectivement de trouver la bonne distance. Moi, je distingue deux types de situations. Il y a les périodes électorales et puis il y a, en cours de mandat, l'exercice du pouvoir. Alors, en période électorale, la conquête du pouvoir, moi, j'ai couvert deux campagnes, donc 2007 et 2012, deux campagnes présidentielles. Et là, je vous parlais de griserie. De fait, c'est passionnant. C'est un combat, c'est un match. Et on a... c'est vraiment le moment où on est au plus près des personnalités. On a tendance à vivre ça comme une... Il y a un côté un peu colonie, un colonie de vacances. On en plaisante entre nous, les journalistes qui suivaient Sarkozy se surnommaient le Sarkotour et ceux qui suivaient Hollande, le Hollande Tour, et on échangeait de temps en temps entre nous. On avait d'ailleurs une forme d'hygiène qui consistait parfois à aller prendre la place de celui qui suivait le camp d'en face. Ça permet de... on a un peu l'impression de voyager dans l'autre hémisphère, et c'est important. Enfin, mais en tout cas, je l'ai vécu comme quelque chose de sain. C'est le moment, les campagnes électorales, où évidemment les hommes et les femmes politiques sont le plus intéressés à nous voir, et c'est donc le moment où on a le plus accès à eux en off. Et quand je prononce ce mot, je suis sûr que je vous intrigue. Le off, ça fait souvent débat. C'est tout ce que les politiques disent hors micro et qui a vocation à ne pas être répété, sauf quand on comprend qu'en fait on nous le dit parce que ce serait bien qu'on le répète ou qu'on laisse entendre que... Je m'arrête là parce qu'il y a une énorme ambiguïté sur cette question du on et du off. Les hommes et les femmes politiques ont tendance bien souvent à distiller des confidences qui ont pour but dans leur esprit d'agir sur l'ambiance du moment. Alors, certaines de ces confidences ont pour objectif de nous décrypter des situations, de nous donner leurs analyses, qui n'ont pas forcément vocation à être publiques. D'autres, quand il s'agit, par exemple, aussi c'est un mot qui a été prononcé, d'une petite phrase sur tel ou tel concurrent, bien souvent, ils sont assez heureux quand ils le retrouvent quelques jours plus tard dans les colonnes d'un magazine, dans les pages indiscrets, du Point, de l'Express, ce genre de choses. Et là-dessus, là aussi, distance, il ne faut pas être dupe. Nous sommes nécessairement, ça fait partie de notre métier et il faut l'assumer, instrumentalisé par les politiques. On aura l'occasion d'y revenir, mais ça fait partie de notre métier. Pour ce qui concerne le suivi de l'exercice du pouvoir, en quelques mots, c'est différent. On n'est plus dans la description d'une bataille. Là, je pense que les intérêts ont plutôt tendance à diverger. C'est-à-dire que nous, les journalistes, notre travail, c'est de publier. Alors que le pouvoir, lui, a besoin de secrets. Dans l'élaboration d'une décision, notamment, on a vu dans la première partie du quinquennat de François Hollande, ça a longtemps été, vous savez, la litanie, la chronique des couacs, sur Florange, sur les 35 heures, sur les taxes sur le diesel. C'était tous les matins, enfin chaque semaine, un couac. Ça me donne l'occasion juste de dire un mot, parce que on nous reproche souvent, nous, de journalistes politiques, de nous attarder sur ce qui apparaît comme des détails. L'élaboration de la décision, les couacs, les divergences entre ministres. Je pense qu'il faut avoir en tête que ça fait partie de la démocratie. La politique, ce sont des débats, ce sont des choix entre une majorité et une opposition, mais aussi entre des lobbies, des groupes de pression, et tout ça agit parfois en souterrain. Et c'est à nous, journalistes, de décrypter tout cela. Et bien souvent, quand sur Florange, par exemple, une divergence apparaît entre des ministres, eh bien, il y a quelque chose de plus profond. Il y a la question de la ligne politique, il y a la question de savoir si François Hollande aura la majorité pour faire voter sa politique. Et donc, tout cela, ça fait aussi partie du jeu. La démocratie, c'est un exercice laborieux. Et nous, notre job de journaliste politique consiste aussi à décrire, alors parfois peut-être trop par le menu, mais à décrire ce processus de décision. Voilà, c'est pas toujours très beau, mais c'est important aussi de le rendre public. Plus généralement, notre travail de journaliste politique dans le suivi du pouvoir, c'est de faire évidemment de la pédagogie sur les décisions qui sont prises, sur les débats qui sont en cours, mais aussi, et c'est très important je crois, d'analyser, de déconstruire des stratégies de communication qui sont de plus en plus élaborées. On a pu parler pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous savez, de storytelling, c'est-à-dire l'idée que l'exercice du pouvoir devait répondre aux règles d'un récit. Certains ont dit que Nicolas Sarkozy envoyait une carte postale par jour aux Français et que nous, pendant un certain temps, nous étions finalement à lire cette carte postale, nous étions condamnés à cela. Je crois que ce type de communication a fini par être analysé, déconstruit, peut-être même se retourner contre leur concepteur. Pour terminer, je voudrais juste insister sur quelque chose qui, à mon avis, est une révolution dont on n'a pas fini de prendre toute la mesure. C'est l'émergence des nouvelles technologies qui a un impact sur notre métier de journaliste politique et sur la distance que nous mettons vis-à-vis des hommes et des femmes politiques et la distance que nous mettons par rapport aux faits. On m'a souvent dit « tu dois subir des pressions vis-à-vis des politiques ». C'est vrai, ça arrive, mais finalement la pression la plus importante que nous subissons au quotidien, je crois, depuis quelques années maintenant, elle est liée à la nouvelle mécanique de l'information en continu, qui est liée à l'apparition des chaînes d'information en continu. J'y ai un petit peu travaillé, Christophe Jacubizine y a travaillé aussi à BFM TV, et à l'apparition des nouveaux médias, des réseaux sociaux du type Twitter, qui permettent de communiquer extrêmement rapidement, qui permettent aux politiques de se passer de nous, de faire une déclaration à leurs abonnés, qui sont parfois des dizaines de milliers, de communiquer sans médias. Et encore une fois, ces nouvelles technologies révolutionnent notre métier. Deux exemples. Ça crée des phénomènes d'emballement et ça brouille complètement. Il peut arriver que ça brouille notre regard. Notre travail, c'est de publier, je le disais. Notre travail, c'est aussi de hiérarchiser des faits. Et lorsque vous travaillez au quotidien avec la concurrence de chaînes d'information en continu qui délivrent une information en permanence parce que c'est leur fonction, parce que c'est leur métier, eh bien, il est de plus en plus difficile de discerner ce qui est important et ce qui l'est moins quand nous, par exemple, sur RTL, vous n'avez que trois grands rendez-vous d'information par jour. Deux anecdotes. Hier, j'avais décidé d'aller regarder les résultats de la primaire de l'UMP à Paris, dans le 7e arrondissement. Et je vois à un moment une forêt de caméras avec des gens qui étaient en direct. Je me dis, une personnalité très importante qui vient, ça doit être Nicolas Sarkozy qui s'invite. Et arrive quelqu'un dont vous avez peut-être entendu le nom, qui s'appelle Pierre-Yves Bournazel, dont la notoriété a fait un bond depuis quelques jours, et parce qu'il avait dénoncé les conditions de la primaire, avait été la star des chaînes d'information en continu pendant deux jours. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sorti, collectivement, hein, j'entends, du sens commun? Est-ce qu'on ne lui a pas fait un petit peu trop de place? Vraisemblablement, mais je prétends que c'est lié notamment à cette mécanique. Puis deuxième exemple, rapidement, lors de la bataille de l'UMP en décembre dernier, on a assisté à un emballement qui, à mon sens, et ça j'en ai été vraiment témoin parce que je l'ai suivi au quotidien, est lié directement aux réseaux sociaux. Vous étiez dans une situation très compliquée où vous aviez deux candidats qui étaient à égalité, un bluff de l'un et de l'autre. François Fillon contre Jean-François Copé cherchaient à faire valoir leurs intérêts et devaient se parler. Je vous disais tout à l'heure, le pouvoir a besoin de secrets, mais la politique, les négociations ont aussi besoin de secrets. Le problème, c'est qu'ils ont mis plus de 10 jours à se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils avaient des réunions avec leurs collaborateurs, envoyaient des SMS, tweetaient, les chaînes d'information en continu relayaient immédiatement ce qui était pris pour des informations, qui à mon sens n'en étaient pas, mais voilà, les dernières avancées. Tout ça faisait écho, faisait d'une certaine manière l'arsène, ils ont fini par se dire le mieux c'est qu'on se voit tous les deux. Mais si vous, j'espère être clair, mais si vous voyez, nous sommes confrontés aujourd'hui à une difficulté dont nous n'avons pas encore pris toute la mesure, qui est l'émergence de ces nouveaux médias et qui nous mettent bien en peine de tenir la bonne distance. Je vous disais en commençant que nous sommes, nous journalistes, dans un exercice de discernement et de conscience. Vous voyez, avec l'émergence de ces nouvelles technologies qui permettraient à terme éventuellement de se passer de journaliste, puisque les uns et les autres vont pouvoir communiquer en direct via Internet, via Twitter, je crois au contraire, et là je prêche pour ma paroisse, qu'on n'a jamais eu autant besoin des journalistes et de leur conscience.
Merci beaucoup Jérôme. Merci d'avoir dressé un peu le tableau et d'avoir incarné notre sujet de ce soir entre séduction, relations intéressées, risque de griserie, le bon usage du off, le risque d'instrumentalisation. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au-delà de tous ces risques, tu as rappelé l'objectif quand même du journaliste politique selon toi, qui est bien de continuer à décrire le processus de décision politique, le faire de manière pédagogique et de déconstruire éventuellement les politiques de communication avec ce nouveau paramètre des nouvelles technologies, des nouveaux réseaux qui font bouger l'info politique avec les risques, tu l'as illustré, des phénomènes d'emballement qui risquent de brouiller la hiérarchie des infos. Alors on va continuer peut-être à avoir un autre éclairage à partir aussi d'expériences de plusieurs années. Christophe Jacobicine, merci.
Bonsoir. Je vais surtout essayer de compléter ce qu'a dit Jérôme, parce que forcément, il y a beaucoup de choses qu'on partage. On côtoie les mêmes acteurs de la vie politique. On a suivi les mêmes campagnes, les mêmes événements. Et donc, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Jérôme, auquel évidemment je souscris, même si j'essaierai un peu plus tard, en fin d'intervention, de le titiller un peu sur certains mots utilisés. C'est peut-être de commencer à instaurer un débat. D'abord, peut-être en préambule, finalement, le débat qu'on a ce soir sur le rapport entre journalisme et politique. Finalement, on peut l'élargir avant de le resserrer. C'est-à-dire que c'est une question, un questionnement que devraient, que doivent se poser tous les journalistes. Par exemple, par rapport à leur domaine d'expertise. Que dire du critique de théâtre, par exemple, qui fréquente, qui côtoie les acteurs? Que dire du journaliste automobile qui participe à des voyages de presse pour essayer des voitures? Que dire du journaliste économique aussi qui accepte des invitations d'entreprise pour partir 3-4 jours à la découverte de cette entreprise? J'ai moi-même été journaliste économique pendant 8 ans. Ça m'arrivait. Alors, c'est toujours un peu gênant parce que ce n'est pas votre employeur qui est payeur. En même temps, quand vous passez 3 jours avec Boeing ou Airbus et que vous suivez l'industrie aéronautique, c'est nécessaire. Si vous ne le faites pas, vous connaissez mal le secteur, vous n'êtes pas ingénieur aéronautique. Et donc, côtoyer, visiter des usines, rencontrer des responsables, des PDG, des dirigeants, ça vous permet de comprendre le secteur. Et en même temps, c'est exactement comme en politique. Ça vous lie d'une certaine manière à vos interlocuteurs parce que d'abord, ça vous initie. Donc, vous faites partie un peu d'une sorte de famille, je sais pas, de l'industrie aéronautique, de l'industrie automobile. Et puis, forcément, ça vous donne de la sympathie, de l'empathie parce que vous avez rencontré des ouvriers, des cadres pour qui leur entreprise, leur secteur d'activité est toute leur vie. Donc, vous êtes un peu plus gêné pour peut-être critiquer des stratégies d'entreprise ou pour les contester. Donc, vous avez le même questionnement par rapport à vos sources et vos interlocuteurs. Et puis, il peut y avoir quelquefois des tentations matérielles. Il y a quelquefois des voyages de presse qui sont un peu des prétextes, des alibis. Et il y a beaucoup de secteurs de l'édition ou de la presse qui vivent beaucoup, qui payent très peu leurs journalistes parce qu'ils ont peu de moyens et qui, en revanche, acceptent que leurs journalistes aient des compensations matérielles, finalement. Des voyages à l'autre bout du monde pour essayer une voiture, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller à Bora Bora pour essayer une Twingo. On pourrait très bien l'essayer sur un circuit en région parisienne. Et pourtant, ça se fait beaucoup. Donc là, c'est un devoir de chaque journaliste, de chaque rédaction aussi, de ne pas tout accepter, de pas être entraîné par ce rythme un petit peu infernal, par ces petites dégradations de la relation de confiance qui vous attache à vos lecteurs ou à vos auditeurs. Donc voilà, je pense que c'est chaque jour, on doit se poser la question de la manière dont on fait son travail et dont votre rédaction, votre entreprise vous demande de le faire. Après, évidemment, pour rejoindre un peu ce que disait tout à l'heure Jérôme, il y a une fascination, on va revenir au secteur politique puisque c'est le thème de ce soir. Lorsque, comme le racontait très bien Jérôme, vous êtes jeune journaliste et tout d'un coup vous rentrez dans le bureau d'un ministre ou d'un conseiller et qu'avec lui, vous découvrez à l'avance les décisions qui vont être prises, les textes de loi qui sont en train d'être écrits et que vous allez pouvoir les raconter à vos lecteurs, à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, forcément, il y a une forme de griserie, de jouissance presque à faire partie de ce cercle d'initiés, de savoir avant tout le monde, même si votre rôle, c'est d'abord d'informer le plus grand nombre, mais il y a un petit moment comme ça, quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines, quand on respecte le off, comme Jérôme, où vous êtes un peu, vous êtes un petit peu privilégié. Et donc, c'est vrai que c'est grisant et que ce sentiment-là, je pense que à mon avis, il faut le combattre. Je pense qu'il est dommageable et je pense même qu'en France, il est trop cultivé par les journalistes. Après, le choix du métier de journaliste aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut, à mon avis, réfléchir presque quotidiennement. Pourquoi est-ce qu'on choisit, quelque part, d'être spectateur, de pas être acteur? Et quand vous devenez spécialisé sur un secteur, qu'il soit économique ou politique, quelque part, vous vous dites, mais je suis en train de devenir acteur et je participe avec mes sources à quelque chose, à une histoire. Jérôme parlait de carte postale. Quelquefois, vous dites, bon, je coécris la carte postale, finalement. Et là, vous basculez, à mon avis, dangereusement. Et là, à chaque fois, il faut se dire que notre premier métier, c'est d'observer et de raconter. Et que la tentation de faire, il faut l'assumer. Si un jour, vous avez la tentation de faire, moi, je ne reproche pas aux journalistes qui cessent d'être journalistes pour devenir acteurs dans une industrie ou dans un gouvernement. Bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre avec sa conscience, mais je pense que quand on le fait de manière définitive. On décide, on dit, bon voilà, on a été spectateur, finalement, ce que j'avais envie, c'est d'être acteur. Et donc, on arrête, on change de vie, on change de métier. Mais tant qu'on est journaliste, je pense qu'il faut s'interdire d'avoir envie d'être acteur. Alors, en plus, quand on est journaliste politique, c'est souvent qu'on a un vrai appétit pour cette matière. C'est-à-dire que l'intérêt général, le service public, le service de l'État, bah oui, je pense que tous les journalistes politiques que je connais ont ce goût pour la chose publique. Alors, quand on découvre les coulisses de la chose publique, on se dit que ce goût n'est pas forcément partagé par les politiques. Mais qu'en tout cas, nous, quand on décide de suivre cette matière, c'est parce qu'on pense que c'est une noble mission, que c'est un beau métier, qu'en plus, en général, ils sont beaucoup moins payés et rémunérés que dans d'autres professions, sauf quand ils ont la tentation d'être davantage payés en détournant les fonds publics. Mais en général, lorsque vous faites ce métier, c'est plutôt par vocation que par intérêt. Enfin, en tout cas, ça l'était et ça devrait le rester. Et donc, on partage, et c'est peut-être là où commence le danger aussi quelquefois, on partage ce goût pour la chose publique avec nos interlocuteurs. Et quelquefois, je pense qu'on a plus de sympathie pour les politiques que d'en ont en général les Français. Parce qu'on se rend compte aussi de la dureté de ce métier, de sa noblesse. Alors bien sûr, il y a des moutons, il y a des brebis galeuses et des moutons noirs, mais pas majoritairement. Il y a beaucoup de gens qui font ça avec conviction, et c'est très dur d'être maire et de recevoir chaque jour, pendant plusieurs heures, vos administrés qui vous racontent leurs soucis de logement, de rémunération, de travail, de couple, de famille. Et c'est un rôle très ingrat qui n'est absolument pas montré par les médias, mais qui souvent est la part principale du travail de nos élus. Et alors après, le désamour, ça serait l'objet d'un autre sujet, j'imagine, de conférence, mais il est lié à d'autres choses. Mais le travail au quotidien d'un député ou d'un maire, c'est un très beau métier. Et c'est vrai qu'il faut aussi, quand on est journaliste politique, se méfier de cette sympathie qu'on a pour ce métier. C'est-à-dire, c'est un beau métier et quelque part, voilà, c'est une belle mission qu'on choisit d'accomplir ses élus. Et c'est, voilà, et je pense que ça aussi, c'est un danger. Voyez, il faut lutter contre beaucoup de choses quand on est journaliste politique, contre beaucoup de sentiments, beaucoup d'affection, en fait, j'ai envie de dire, beaucoup de sympathie. Donc voilà, je parlais donc de la satisfaction d'être initié, d'être dedans, de la sympathie pour un métier que finalement on respecte et que quelque part, voilà, on pense qu'il sert le pays quand il est bien fait. Alors le off, c'est une extravagance française. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peu de pays au monde où le off est aussi chéri par les journalistes politiques. Ça m'a toujours semblé curieux. Du coup, en fait, souvent, mes confrères et politiques se sont souvent méfiés de moi parce que je ne le dis pas trop. Là, on est assez peu nombreux, donc je le redis. Mais je ne respecte pas le off, en fait. Bien sûr, je respecte parfois, mais je veux dire, le principe, c'est que je ne suis pas là pour me faire plaisir. Voilà, je suis là pour informer les gens et mes interlocuteurs politiques savent pourquoi je suis là. Je suis un médiateur. Donc, quand ils me parlent, ce n'est pas pour me faire plaisir. Ce n'est pas pour me raconter des choses que les gens ne savent pas ou ne sauront que dans quelques temps. C'est pour que j'informe. Et donc voilà, maintenant les politiques peut-être me parlent moins qu'à d'autres, je ne sais pas. En tout cas, ils savent qu'en général, mon client, si je puis dire, pardon pour ce terme, ce sont les gens qui me lisent, qui m'écoutent, qui me regardent. Donc le politique, après tout, voilà, il m'alimente. Donc je ne lui dois rien. Donc je ne lui dois même pas la confidentialité de ce qu'il me raconte. Il sait qui je suis. Quand je le vois, je ne suis pas un ami, je ne suis pas un copain. Je ne vais pas lui raconter ce que je fais le week-end avec ma famille. Ça ne m'intéresse pas qu'il me raconte ce qu'il fait lui aussi. Voilà. Et donc, je ne crée pas de connivence avec lui parce que ça ne m'intéresse pas et que, voilà, en général, ça n'intéresse pas le public. Bon, maintenant, je ne vais pas apparaître comme je ne suis pas Robespierre. Il y a des choses dans ce que me disent les politiques qui... On a besoin de discuter, d'avoir un débat intellectuel. Et donc, c'est vrai que quelquefois, on peut confronter des idées. Un politique peut me raconter le cheminement, un ministre peut me raconter le cheminement de son projet, de sa loi, quels obstacles il rencontre, comment il va essayer de les éviter, qui il doit convaincre. Et ça, je n'ai pas forcément ni intérêt, ni même utilité à l'expliciter tout de suite, le lendemain, dans un article. Je vais peut-être attendre quelques jours. Mais quand même, je préfère toujours dire à mes interlocuteurs, attention, moi je raconte. Voilà. Et peut-être que quand j'ai écrit ce livre, La Frondeuse, J'aurais peut-être dû le dire plus souvent à mes interlocuteurs. Pourtant, je le disais, on écrit un livre avec Alix Bouyaguen. Nous sommes, nous, journalistes, nous écrivons un livre, donc on s'intéresse à une personnalité qui est parapublique, comme elle le dit elle-même. Et donc, on voudrait savoir ce que vous pensez sur elle, mais c'est pour un livre, voilà. Mais dans le « c'est pour un livre », peut-être que certains ont cru que c'était aussi pour nous. Mais nous, tout le monde s'en fout, donc c'est d'abord pour le livre. Donc, par exemple, pour illustrer ce que je vous dis, je vais vous raconter ma relation avec le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Vous savez qu'il a produit une pièce lors de la procédure, qui, par ailleurs, connaîtra une nouvelle étape demain, puisque c'est demain qu'il y aura le verdict. Donc, une lettre dans laquelle il dit que, dans les pages X, Y, Z, il cite une dizaine de pages, il n'a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés dans le livre. Et la lettre est à l'entête du ministre de l'Intérieur, elle est envoyée au tribunal, au juge. Or, il se trouve que, comme je travaillais à 7000 km de distance de ma co-auteure, qui est aux États-Unis, on avait l'habitude, d'enregistrer toutes les conversations, d'ailleurs avec un magnétophone qui était sur la table, mais bon, c'est un téléphone portable. Donc, bon. Et surtout, on écrivait un verbatim absolument exact de la conversation qu'on envoyait à l'autre, de manière à ce qu'on ait exactement le même degré de connaissances et d'informations de chacun des entretiens qu'on pouvait avoir. Et donc, évidemment, on gardait tout. Bon. Donc, quand on a vu cette lettre arriver, on était un peu inquiet quand même. On se dit, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir écrit un mot de travers, d'avoir remplacé un mot par un autre dans la relecture. Et donc, on a consciencieusement repris le verbatim. On a vérifié si le verbatim correspondait bien aux enregistrements. Puis donc, on a donné au juge, on a dit, voilà ce que dit M. Valls dans sa lettre. Voilà ce qui est dans ce qu'il nous a dit exactement. Voilà ce qui est dans les bandes. Voilà. Et en fait, il n'y avait pas un mot ou une virgule d'écart. Et je vais vous dire, il y a même une quatrième colonne. Voilà ce qui était off. Hein, et pour le coup, voilà ce qu'on a respecté. Et on a évidemment donné ces éléments de preuve la veille de l'audience. Alors, le lendemain midi, curieusement, la lettre avait disparu. C'était la pièce numéro 62. Et donc, pendant l'audience, mon avocate m'avait fait remarquer que la pièce avait disparu. Et donc, on ne s'est pas manqué, pendant l'audience, de s'interroger, nous aussi, sur le fait de la disparition de cette pièce 62 auprès des magistrats. Et à tel point qu'on a même demandé, puisqu'on a le droit, en fait, on a même demandé que cette pièce soit... Nous, on a redéposé cette pièce. On l'a présentée, la lettre du ministre de l'Intérieur. Pourquoi elle avait disparu? Parce que simplement, effectivement, il n'y avait pas un mot ou une virgule de ce qui était dans le livre qui n'ait pas été prononcé par le ministre de l'Intérieur comme... des autres interlocuteurs. En plus, ce n'était pas des choses, pour le coup, après on peut avoir le débat, vie privée, vie publique, ce n'est pas du tout des choses qui étaient attenantes à la vie privée. Pour le coup, c'était des choses qui étaient dites sur la campagne, sur le rôle de chacun, sur l'influence ou pas de Valérie Trévalère auprès de son compagnon. Il y avait vraiment, on était dans la description pure du processus politique, mais on avait basculé, on était, comme vous le savez, notre République est très monarchique, et donc là, on révélait des choses qui faisaient partie en fait des coulisses d'un pouvoir qui n'aime pas qu'on mette trop la lumière sur ce qui se passe véritablement dans les coulisses. Bon, bref, je ferme cette parenthèse personnelle, veuillez m'en excuser, pour vous dire que le off, je trouve qu'on en fait un usage excessif en France, et surtout que, d'autant plus que souvent, on garde pour soi les informations, et en plus, souvent... Je vais paraître comme étant vraiment pour le coup très ingrat, mais on ne pose pas toujours les bonnes questions quand on est journaliste. Quand on voit des conférences de presse, par exemple, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, avec le chef du gouvernement, le chef de l'État, on est étonné de la précision, la pertinence, la liberté des questions. Et quand j'assiste à la conférence de presse du chef de l'État, alors vous me dites c'est ma faute, je pourrais aussi lever le doigt et poser une question, mais souvent je lève le doigt et on ne me donne pas le micro. Alors, c'est vrai qu'on est quand même très nombreux, on est 250, 300, qu'il faut attendre son tour, qu'en général il y a une question par rédaction, ce qui est normal d'ailleurs, hein, et que donc quand la personne de votre rédaction, qui est en l'occurrence spécialisée de la présidence, a posé sa question, en général le micro ne revient pas pour la même rédaction. Alors c'est très frustrant. Bon, tout ça, je caricature un petit peu parce que mes confrères et consœurs font par ailleurs aussi du très bon travail, mais on a une sorte de déférence par rapport au pouvoir. C'est surtout ça que je voulais dire. C'est pas tellement... Il y a plein de journalistes qui font très bien leur travail, qui sont dans l'investigation, qui sont dans le décryptage. Mais en revanche, on a, c'est vrai, on a un peu peur du pouvoir. Enfin, moi, non, mais on a un peu peur quand même. C'est-à-dire que On a peur des conséquences d'une question trop impertinente, d'une question trop... je ne sais pas pourquoi, parce que je pense quand même que, contrairement à ce que les journalistes pensent eux-mêmes, la presse est assez libre et indépendante et qu'on doit pouvoir se permettre beaucoup plus de liberté et d'impertinence. Mais bon, c'est un long apprentissage. Je suis sûr qu'on y parviendra, d'autant plus que ce que disait Jérôme sur l'émergence des... Enfin, l'émergence, ils ont émergé depuis longtemps, mais des réseaux sociaux, du lien direct, de l'interpellation aussi des Français directs aux politiques à travers notamment Twitter, fait que on peut plus se permettre d'être... il faut poser les questions que les Français se posent. Il faut les poser directement aux politiques. Et je pense que, pour moi, les réseaux sociaux, c'est surtout ça. C'est pas tellement le fait que l'actualité soit immédiate, parce que, comme le disait très bien Jérôme, il faut un filtre. Et ce filtre de l'information immédiate, l'information immédiate ne permet pas, justement, d'avoir le temps de ce filtre. Donc, je ne suis pas très inquiet sur... la hiérarchie des médias, comme le disait Jérôme. En revanche, je pense qu'elle va changer la manière dont les journalistes font leur métier. Il y a d'abord le fait que les questions sont très directes et qu'ensuite, chez les Français, il y a beaucoup d'experts. Moi, je viens d'une radio, j'ai travaillé pendant 4 ans, RMC. C'est un peu un choc culturel, après 13 ans passés au Monde. C'est une radio que certains qualifient de populiste parce qu'elle donne beaucoup la place aux auditeurs. Mais au fond, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, qui m'a d'ailleurs rendu... très modeste, c'était une des tranches les plus intéressantes de la radio. C'était entre 9h et 10h du matin, lorsque les auditeurs avaient la parole. Mais, je ne dis pas ça pour Jérôme, mais contrairement à RTL Europe 1, où souvent on ouvre l'antenne une heure pour se débarrasser des auditeurs, c'est-à-dire qu'au fond, et souvent d'ailleurs on met des gens à la tête de ces tranches qui sont un peu placardisés, c'est un peu la corvée, tu vas faire les auditeurs. À RMC, je suis d'autant plus libre de le dire que je n'ai pas participé à la création de cette radio. J'étais immigré à RMC, donc je n'ai pas eu le génie des commencements. Et le génie des commencements, c'était d'ouvrir le standard de 4h30 du matin à minuit. À tout moment, vous pouvez non seulement appeler, commenter, passer à l'antenne, mais comme c'est une antenne très ouverte, qu'il y a beaucoup de standardistes, que le standard est collé au studio, de manière à ce que quand les gens sont au micro, ils entendent les auditeurs, ils entendent les standardistes répondre aux auditeurs. Et quand quelqu'un pose une question ou interpelle la radio, moi, en tant que directeur de la rédaction, j'avais immédiatement un mail qui résumait en une phrase ou deux ce que disait l'auditeur. Alors, au début, je me dis, ils sont fous dans cette radio. Je recevais des centaines de mails par jour. J'avais du mal à les filtrer. Mais au fond, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que d'abord... vous êtes vraiment dans une radio qui est à l'écoute de ce que les gens disent. Et en plus, je reviens à ma tranche du 9h-10h, comme il y a des centaines de gens qui appellent, des milliers, qui sont connus par leur numéro de téléphone. On sait qu'un tel a déjà appelé 2-3 fois et que son intervention était bonne, très bonne, moyenne, mauvaise. S'il était mauvais la fois précédente, il ne repasse pas à l'antenne. Donc en fait, ne passent que les gens qui sont très bons et qui sont experts sur leur domaine. C'est-à-dire que sur une question d'actualité, par exemple, si... il y a un crack sur les marchés, c'est un auditeur trader qui va avoir le droit de parler, d'expliquer. S'il y a une comète qui passe dans les environs, c'est un astrophysicien qui appelle le standard de RMC. Madame Michu, elle ne passe jamais à l'antenne de RMC. Parce que ce n'est pas intéressant de savoir ce que quelqu'un, même de très respectable, aussi respectable que Madame Michu, pense de tel ou tel sujet. Pour passer à l'antenne, il faut qu'elle ait une expertise particulière. Il faut qu'elle connaisse particulièrement le sujet. Ou alors qu'elle soit directement concernée par le sujet, l'actualité, la mesure, la loi, et que donc son avis soit intéressant pour tout le monde. Ce n'est pas Café du Commerce. Et c'est vrai que l'image qui est parfois donnée, cette radio un peu Café du Commerce, moi, ce n'est pas celle que j'ai découverte en l'écoutant, parce que c'est vrai que pour la vérité, c'est que je ne l'écoutais pas beaucoup avant, en écoutant et en y travaillant. Tout ça pour dire que les réseaux sociaux vont jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que c'est des gens informés qui vont, par exemple, faire ce qu'on appelle le « fact-checking ». Vous savez, c'est la formule américaine qui veut dire la vérification des faits de ce que nous disent les politiques, par exemple. Tel homme politique nous dit qu'il y a 12% de nains de Français qui... Bon. Tout de suite, sur un réseau social, vous allez voir quelqu'un qui va dire « mais pas du tout, je suis directeur au service éthique de l'INSEE, le chiffre n'est pas de 12, mais de 9. Voilà, donc des véritables experts. Et contrairement à ce qu'on pense, cette multiplication des canaux et des intervenants ne nivelle pas forcément par le bas, mais au contraire... apporte le niveau d'expertise à tous. Et je pense que c'est pour nous une sorte de stimulant fort, de vecteur fort de la qualité de notre métier. Ensuite, bon, peut-être pour vous parler de, encore un peu de l'expérience de ce livre qui a été absolument passionnante sur le rapport que j'ai eu avec les politiques ensuite. C'est-à-dire que il y a eu effectivement des périodes un peu tendues avec le pouvoir, d'autant qu'il s'agissait d'un nouveau pouvoir, vous vous en doutez. Donc il y a eu, c'est là où, bon, on est peut-être tous un peu naïfs, mais tant que vous n'êtes pas confronté à une véritable oui, campagne de pression, et de, je ne me plains pas, hein, vous voyez, je suis toujours là, j'ai toujours mon travail, j'exerce pas un métier dangereux, tout va bien. Mais simplement, c'est vrai que j'ai vu à quel point l'État, des hommes politiques, des ministres peuvent se mettre en branle pour tenter de vous déstabiliser parce qu'ils estiment que vous avez franchi une ligne rouge. En l'occurrence, la ligne rouge dans ce livre, ce n'était pas tant, vous le savez sans doute, l'épisode de vie privée, qui révélait en fait une liaison politique entre deux hommes politiques, une liaison intellectuelle, c'est-à-dire ce qu'on révèle dans ce livre, qui a d'ailleurs été repris par personne. Bon, on a à peu près la certitude de ce qu'on a avancé, mais je n'ai vu dans aucun autre média quelqu'un enquêter là-dessus. Ce que révélait, ce que cachait en fait... cette liaison politique, c'était en 94, Jacques Delors jette l'éponge, vous en souvenez, et François Hollande qui à l'époque anime, enfin est président du club des jeunes deloristes, se demande ce qu'il va faire en politique. Il était vraiment convaincu de cette ligne social-démocrate, c'était ses convictions profondes, et il se rend compte que sans Jacques Delors, le Parti socialiste va retomber dans, le pense-t-il, ces anciens démons de l'union de la gauche, de l'alliance avec les communistes, du discours très ancré à gauche. Et voilà, et il se trouve qu'il, et il a tout à fait le droit, c'est tout à fait respectable, d'ailleurs dans le livre on ne critique pas, on dit juste que ça fait partie de son parcours intellectuel et politique, il se demande s'il n'aurait pas plutôt intérêt, pour lui, je ne sais pas, ou pour son parti, en tout cas, de se rapprocher d'Edouard Balladur, de savoir si il n'y a pas quand même quelque chose à faire au centre droit, au centre gauche, et si sa place à lui... jeune homme politique encore en 94, ne serait pas plutôt peut-être dans une forme d'alliance nouvelle, hein. Je ne dis pas qu'il le fait de manière personnelle, il n'envisage sans doute pas François Hollande de changer de camp, il veut juste réfléchir si pour sa famille socialiste ce n'est pas mieux de s'ancrer avec le centre droit plutôt qu'avec les communistes. Et donc il fait un travail assez compliqué quand on a cette réflexion là d'approcher discrètement le camp adverse, surtout qu'on est en début de la campagne présidentielle, vous savez que Balladur se présente contre Jacques Chirac, donc c'est compliqué. Et il fait appel à Patrick de Vétchan, dont il est proche, il est à la commission des finances, et il lui demande de solliciter un entretien avec Édouard Balladur pour parler de cet éventuel, je ne sais pas si c'est un rapprochement, en tout cas d'en discuter. Et il se trouve que de Vétchan a regardé trace de ce rapprochement, mais n'a jamais voulu... en parler, ni le divulguer, parce qu'il pensait que ça pouvait nuire à François Hollande et qu'il ne veut pas nuire à François Hollande. Et vous ne comprenez pas pourquoi il ne veut pas nuire à François Hollande si vous ne savez pas que derrière, il y aura cette histoire, cette cour à la Jules et Jim qu'il y a eu effectivement autour de Valérie Trévalère. Peu importe, c'est vrai qu'on a beaucoup hésité. On s'est dit, ce n'est pas à nous d'écrire ça, on est journaliste politique, sauf qu'on avait très envie de révéler ce scoop du rapprochement intellectuel potentiel de François Hollande. Et quand vous voyez aujourd'hui... les hésitations du président de la République sur sa ligne politique économique, l'incapacité qu'il a à assumer ses choix sociaux-démocrates, à dire, comme le racontait très bien Plantu dans Le Monde avant-hier, à dire à Bruxelles, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, et après, en France, à expliquer effectivement qu'il faut faire ce que dit Bruxelles. Bon. Mais parce que c'est ses convictions profondes, parce que c'est très louable d'ailleurs, il pense qu'il y a pas, voilà, que c'est ça la ligne économique qu'il doit suivre, qui doit être, voilà, qu'il faut réduire les déficits, qu'il faut instituer une sorte de social-démocratie à la française, qu'il faut réformer les retraites comme il s'apprête à le faire à la rentrée. Bon, sauf qu'il ne l'assume pas. Donc, il a choisi un Premier ministre qui l'assumait. Bon, mais lui, il est dans le... Non seulement il ne l'assume pas, puis il fait un calcul politique. Il sait qu'il ne sera jamais réélu s'il n'a pas aussi les voix de l'aile gauche de son parti, du Parti socialiste, et la gauche de la gauche. Donc, il sera toujours dans l'ambiguïté jusqu'au bout, car il a besoin de ces voix-là pour éventuellement se faire réélire. Bon, et donc moi je sais que dans le livre, ce qui l'a le plus dérangé, c'est pas du tout l'histoire de sa compagne qu'il connaît par cœur, mais c'est le fait qu'on puisse lever un voile sur cette tentative de rapprochement intellectuel. Bon, Et je sais que c'est pour ça qu'ensuite, on a tenté de nous déstabiliser, un grand mot, on est des grands garçons, on se laisse pas déstabiliser comme ça. Mais voilà, en tout cas, juste peut-être pour me justifier sur l'aspect vie privée, vie publique, la volonté dans cet ouvrage, ces quelques pages qui ne constituent pas le résumé du livre, mais c'est effectivement de pouvoir expliquer ce cheminement intellectuel et politique de François Hollande. Je vais peut-être, oui, je suis très long toujours, donc je vais raccourcir très vite. Non, juste pour reprendre peut-être, alors pour faire un peu, pour titiller un peu Jérôme, mais très amicalement, on a parlé effectivement de, quand Jérôme dit qu'on est un pouvoir, on est un quatrième pouvoir, mais j'ai pas envie de me voir comme un homme, comme un homme ou des femmes de pouvoir. Je pense que nous sommes des hommes de contre-pouvoir, c'est-à-dire que la tentation, justement, la pente naturelle, c'est de dire qu'on a du pouvoir et que justement ça constitue une satisfaction. Bon, non, je pense que justement on doit toujours être dans le contre-pouvoir. En fait, on est des sales gosses, c'est-à-dire que quel que soit le pouvoir en place, de droite ou de gauche, notre rôle, ça va être de le contester, de montrer ses contradictions. Par exemple, je sais pas, hier soir ou 20h, on m'a dit quand même, t'as été dur, mais François Hollande dit en mars, il va falloir plafonner les allocations. Je dis pas ce que je porte aucun jugement. Il dit, il va falloir plafonner les allocations familiales. Ceux qui ont les revenus les plus aisés vont en recevoir moins. Il le dit face à une caméra et il le fait pas. Bon. Et après, il dit, on n'augmentera plus les impôts en 2014. Il le dit plusieurs fois. Il le dit encore le 16 mai. Le 16 mai, c'est hier, comme dirait François Hollande, je parle un peu comme lui, bon, mais et il le fait quand même. Donc, dans une seule décision, il s'est renié deux fois. On n'en est pas à trois. Mais du coup, c'est notre rôle de montrer leurs contradictions, leurs errements, leurs mensonges. Et puis, si ça avait été un gouvernement de droite, notre obligation aurait été de faire la même chose, d'être toujours en contre-pouvoir. Alors après, il faut être aussi quelquefois savoir reconnaître quand des décisions sont les bonnes, mais je préfère quand même qu'on soit plutôt dans la contestation que dans l'adhésion. Voilà, j'avais autre chose à te dire, Jérôme, mais je ne sais plus. Non, ça viendra dans le débat. Voilà,
ça viendra dans le débat. Merci beaucoup, Christophe Jacobicine. Je retiens pour ma part un certain nombre de choses, que finalement toutes ces questions autour des sources et des interlocuteurs, c'est évidemment une question que tout journaliste doit se poser, quel que soit son champ de compétences, et que vous avez mis en lumière un certain nombre de tentations ou de risques, celle de la fascination, la griserie, d'être un peu dans un groupe de privilégiés, qu'il faut combattre cela, que c'est peut-être un petit peu pas toujours facile d'avoir cette distance pour les journalistes, la tentation d'être acteur soi-même, avec, il ne faut pas oublier que la première tâche, vous l'avez dit, c'est d'observer et de raconter, le risque aussi d'une trop grande sympathie, finalement, de partager le goût de la chose publique avec les hommes politiques. Alors, trouver la juste distance, eh bien, ça veut sans doute dire, vous l'avez dit, dire clairement, je ne suis pas un ami de l'homme politique, c'est dire aussi à ces hommes politiques, attention, je raconterai ce que vous m'avez dit. Reste que demeure cette déférence, sans doute trop prononcée vis-à-vis du pouvoir, que certains journalistes finalement en ont peut-être un peu peur, et que ces hommes politiques peuvent vouloir déstabiliser les journalistes. Journalistes hommes de pouvoir ou de contre-pouvoir, on va avoir l'occasion d'y revenir sûrement dans le débat. Merci beaucoup. François, après avoir entendu tout cela, que peux-tu nous dire ?
C'est la force des témoignages, elle est assez éloquente. Donc, en faisant la synthèse, tu évoquais la différence. Et si on a un débat ce soir sur journalisme et politique, quelle distance adopter, c'est bien qu'il y a un problème qui se pose. Sinon, cette question n'aurait pas surgi comme ça. Alors, elle se pose depuis longtemps. Et elle se pose, elle est mesurée, cette question. Dans un baromètre de la Croix qui a 20 ans d'histoire maintenant, il y a une question barométrique qui est posée chaque année. Elle consiste à interroger les gens sur le degré d'indépendance des journalistes, donc la distance des journalistes par rapport au pouvoir politique, au pouvoir économique. Et les réponses sont glaçantes. C'est-à-dire, on prend sur la longue durée les 20 ans, les variations sont très faibles, et on arrive à ce résultat, une écrasante majorité. 66% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants face aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Et sur la question économique évoquée tout à l'heure par Christophe, les journalistes ne sont pas indépendants face aux pressions de l'argent. Donc, le tableau est assez sombre. Et à vrai dire, alors pour atténuer un peu l'impact de ces révélations gravissimes, c'est que, en fait, ce sondage mesure aussi la suspicion assez généralisée dans l'opinion française à l'égard de tous les gens de pouvoir, toutes les élites, etc. Donc, ce sondage est imparfait. Enfin, il a un biais, mais il donne quand même une photographie d'un certain malaise. Au fond, ce que les Français reprochent aux journalistes, c'est la chose suivante. Leur vocation est d'assurer la médiation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et les Français reprochent aux journalistes d'être plus proches de ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas. Donc, on évoquait la démocratie tout à l'heure. Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Et dans le jugement des Français, finalement, les journalistes sont mis dans le même sac, partagent le discrédit des hommes politiques, de toutes les élites en général, des patrons d'entreprises, etc. Et on leur reproche finalement, alors après on pourra discuter à juste titre ou à tort, de participer à ce fonctionnement qu'on a décrit, qui est du vocabulaire proprement poujadiste, mais qui décrit, ou populiste, mais qui décrit quand même une partie de la réalité, un fonctionnement en caste avec des complicités. Si vous observez les magazines People de l'été, je ne sais pas si vous les lisez beaucoup, c'est moins fréquent actuellement, mais c'était vrai encore il y a quelques années. Vous aviez étalé dans les pages des magazines People de l'été les vacances partagées entre les ministres et les journalistes. Donc, si ensuite les Français pensent que les journalistes ne sont pas vraiment indépendants du pouvoir politique ou du pouvoir économique, ben, en feuilletant les magazines People, ils vérifient d'expérience cette communauté de vie, ce partage dans un fonctionnement qu'on peut parfois qualifier de caste. Alors, il faut, pour évoquer le monde des journalistes, il faut aussi considérer que ce monde est hétérogène. Tout le monde n'est pas invité à Ramatuelle ou ailleurs. Il y a des différences selon les médias, les entreprises de presse, etc. Et c'est sur cette question de la distance des journalistes avec le pouvoir politique qui, à mon avis, deux grands écueils à éviter. Le premier écueil, il a fait les choux gras de l'analyse pendant plus d'une décennie, dans la foulée des travaux de Bourdieu et de son équipe, sur les procès des dérives journalistiques qui seraient les chiens de garde de tous les pouvoirs et de l'ordre du monde, ce qui n'est absolument pas vrai. Il y a une culture de l'indépendance journalistique qui les met un peu à l'abri de ce fonctionnement moutonnier. Et là, c'était vraiment forcer le trait. Mais à l'inverse, il y a ces caricatures, mais il y a d'autres caricatures, c'est-à-dire l'espèce de bonne conscience qui parfois hante les rédactions et l'aveuglement qui va avec sur les phénomènes de connivence évoqués tout à l'heure par Jérôme ou Christophe. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est un peu compliqué pour ne pas être dans cette caricature. Alors, quand j'ai été amené à réfléchir à ces questions pour mon enseignement, j'ai trouvé le livre d'un sociologue qui s'appelle Cyril Lemieux, ça s'appelle « Mauvaise presse », c'est pour une sociologie compréhensive du travail journalistique, c'est paru chez Montchrétien, et il essaye, en bon sociologue, de modéliser le fonctionnement des hommes politiques et des journalistes. Alors il dresse un petit schéma que je vais forcément réduire pour la commodité de mon intervention. L'hypothèse 1 qu'il fait, c'est que le journaliste, ça a été dit par Christophe tout à l'heure et Jérôme aussi, le journaliste a besoin d'informations. Ça, c'est le postulat. Hein. C'est ce qui nourrit son métier. Un journaliste sans information, ce n'est pas un bon journaliste. L'homme politique, hypothèse 2, l'homme politique a besoin qu'on parle de lui. Sa notoriété en dépend, qu'on souligne la puissance de son action, la pertinence de ses choix, etc. Alors, la question compte tenu de la description de cette situation assez primaire, il faut s'intéresser à la manière dont se noue le contrat. L'homme politique, ça a été décrit très bien par Jérôme et Christophe tout à l'heure, l'homme politique et le journaliste s'approchent. Tous deux ont des intérêts communs, l'un pour obtenir des informations, l'autre avoir publié son point de vue ou ses projets, etc. Se noue donc à ce moment-là une sorte de contrat implicite. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ce qui est intéressant dans tous les contrats, c'est le moment où le contrat est rompu. Il peut se passer la chose suivante. L'homme politique a des informations qu'il ne souhaite pas forcément donner au journaliste. C'est-à-dire qu'il a besoin aussi de secrets pour conduire son action. Donc, au bout d'un moment, il va se passer la chose suivante. L'homme politique va disposer d'une information qui ne donnera pas au journaliste. Ça serait, donner cette information serait contraire à ses intérêts du moment. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du journaliste? Il y a une rupture du contrat à ce moment-là. Donc, le journaliste boude l'homme politique et n'est plus en relation avec lui, ne fait plus le travail de popularisation de l'activité de l'homme politique qu'il faisait traditionnellement quand le contrat fonctionnait à plein. Mais, évidemment, on n'est pas au bord du précipice, là. Il va se passer une chose. Au bout d'un moment, le journaliste aura quand même besoin d'informations. Il ne va pas arrêter son activité. Donc, il reprend contact avec l'homme politique qui l'a déçu. L'homme politique qui a besoin du journaliste pour que l'on parle de lui recherchera également le contact et les affaires reprendront. C'est une suite de déceptions. Le modèle de le mieux décrit ça. Une suite de contrats rompus. Alors, ça marche également en sens inverse. Il peut arriver qu'un jour, le journaliste dispose d'une information qui ne sert pas précisément les intérêts de l'homme politique avec qui il a des relations privilégiées. Mais il estimera qu'il a plus intérêt à publier cette information qu'à la garder secrète pour préserver ses relations privilégiées avec l'homme politique. Le contrat, là encore, sera rompu, mais comme l'un et l'autre ont profondément besoin l'un de l'autre, le contrat se renouera ultérieurement. Alors, faites l'hypothèse, il y a des gens têtus qui sont profondément vexés, et c'est durable. Mais le journaliste n'est pas tout seul, et à partir d'un moment, se substituera au journaliste coincé, déçu, ou à l'homme politique boudeur, un autre journaliste qui reprendra la tâche, et les contrats se renoueront de cette manière-là à l'infini. Alors, évidemment, j'ai fait de la vulgarisation sociologique, le schéma de Cyril Lemieux est beaucoup plus subtil que ce que je vous ai décrit là, mais ce modèle qui peut paraître sommaire est, en tous les cas, le modèle qui décrit le plus fidèlement, à mes yeux, la nature des liens et le fonctionnement des hommes politiques et des journalistes politiques. J'ai 30 ans d'expérience en journaliste politique. J'ai trouvé que ce schéma correspondait assez bien à nos pratiques. Et ça exclut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, il exclut toute la dimension affective ou tous les discours affectifs sur la relation entre les hommes politiques et les journalistes. C'est une communauté d'intérêts, de gens qui ont intérêt à travailler ensemble, qui passent des contrats, qui défendent des contrats, qui en passent d'autres, etc. Alors, ces questions sont éminemment complexes si on essaye de les modéliser un peu. Il faut bien comprendre que la presse en France est dans une situation particulière. Sa situation économique est catastrophique. C'est la sidérurgie lorraine dans les années 80, pour caricaturer. Cette situation de sous-capitalisation permanente rend possible le rachat d'entreprises de presse par des acteurs déterminants du monde économique. Alors, jusque-là, rien à redire, puisque on peut considérer que pour le bien des journalistes et de la presse en général, il faut que les entreprises de presse atteignent des tailles critiques. Le problème quand même que pose cette situation, c'est que la plupart des gros investisseurs dans la presse quotidienne, la presse magazine, etc., en France, ne sont pas des industriels lambda. Ce sont des industriels dont l'essentiel de l'activité dépend de la commande publique. Donc on est dans cette situation un peu particulière où en France, les grands titres, les grands magazines, les grands quotidiens sont souvent la propriété de gens dont l'activité économique est extrêmement dépendante de la commande publique. Alors, il ne s'agit pas de faire de la morale là ce soir, mais on peut analyser les choses de la façon suivante. Commande publique d'un côté, activité économique, l'État qui passe la commande publique, on voit l'imbrication entre économie et politique dans un nœud assez serré. C'est pas vous ni moi qui achetons des chars Leclerc, etc., etc. Voyez, ou des avions Rafale, ou ce que vous voulez. Vous voyez donc que cette situation pose un problème particulier qui ne contribue pas à renforcer l'image de l'indépendance des journalistes dans l'opinion sur le doute sur la distance qu'ils ont par rapport aux différents pouvoirs, ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour nuancer ce point de vue, tout ce que je vous dis est vrai et vérifiable, c'est qu'il y a quand même une grande tradition frondeuse dans les rédactions qui fait que cette tutelle, elle ne se mesure pas ou elle ne se sent pas tous les jours. À la lecture des titres que j'évoque, il y a une tradition d'indépendance culturelle, d'indépendance des journalistes en France, qui les amène à résister assez facilement à ces pressions. La question devient plus complexe quand les intérêts vitaux du groupe sont en jeu. Là, il faut regarder d'un peu plus près ce qui s'écrit dans les titres que j'évoque. D'autre part, Jean Stern, qui a été journaliste et qui enseigne maintenant, a fait un livre récemment dont je ne me souviens plus le titre, mais qui fait une remarque très pertinente sur cette question des investisseurs dans la presse. La thèse de son livre consiste à dire quand LVMH achète Dior, il capitalise Dior de telle façon que la marque puisse se développer, il embauche des créateurs, etc. Quand LVMH achète les Échos, il assure la survie des Échos, mais on ne peut pas considérer qu'il ait mis des moyens énormes pour développer les Échos, qui est dans une situation à peu près comparable de celle de la plupart des quotidiens nationaux, c'est-à-dire en manque de ressources pour leur propre développement. Donc, cette différence de traitement conduit à s'interroger quand même pourquoi est-ce que de grands industriels, de grands patrons, ont à ce point le désir d'inscrire une partie de leur activité dans la presse, si d'un côté ils n'investissent pas en espérant dégager des marges spectaculaires, mais parce que simplement ils recherchent autre chose attachée à la possession d'un titre de presse, c'est évidemment l'influence dans le débat. Autre remarque, toujours dans cette approche un peu impressionniste des questions liées à l'indépendance des journalistes ou à la distance des journalistes, il faut dire que la tâche n'est pas facile non plus pour les hommes politiques. Michel Rocard, quand il était à Matignon, avait théorisé ça en disant « Je passe 90% de mon temps à faire de la communication », c'est-à-dire une action gouvernementale a des chances d'être comprise. Si elle est bien relayée dans l'opinion, elle a des chances d'être soutenue. Si les gens qui la conduisent passent du temps à rencontrer des journalistes politiques pour expliquer quel est le sens de leur action. Donc, mais le problème devient le suivant, c'est que la vie politique, surtout dans le système politique français, est devenue à ce point personnalisée qu'il devient très difficile de conduire correctement ce travail pédagogique sur l'action politique. Et d'une certaine façon, la pression médiatique conduit assez souvent les hommes politiques à répondre à la demande journalistique dans la conduite de leur action, ou ce qui est supposé être la demande de l'opinion, les conduit à répondre à la demande exprimée par les médias, parce qu'ils ont l'impression de conduire une action qui servira à leur projet. On peut adresser beaucoup de critiques à François Hollande, et à mon avis, il a mal géré cette question-là. Mais son septennat s'était introduit par une volonté qu'il avait formalisée, essayer de rétablir du temps long dans la conduite de l'action politique, être moins sous la pression des médias. Cette position, vraisemblablement, à cause de la nature du régime politique en France, est extrêmement difficile à tenir. Et d'une certaine façon, il s'est pris les pieds dans le tapis en essayant de se donner du temps alors que l'opinion demandait des résultats. C'était très compliqué à gérer, mais son intuition était bonne. Une action politique a aussi besoin de temps long. Et c'est ce temps long, notamment sous la pression des médias, qui manque un peu aux politiques. Donc la tentation est forte, on l'a décrit tout à l'heure, Christophe et Jérôme en ont parlé. La tentation est grande quand ils conduisent leur action. La tentation est grande chez les hommes politiques de chercher une sorte d'appui inconditionnel des médias, de trouver des relais pour expliquer leur action. Et là, les phénomènes de complicité, les vacances que j'évoquais tout à l'heure, deviennent un biais pour faciliter, pour mettre de l'huile dans les rouages, etc. On évoquait aussi tout à l'heure, il y a eu un débat feutré entre Jérôme et Christophe sur la question quatrième pouvoir. Les médias ont incontestablement un pouvoir, mais institutionnellement, il n'y a pas de quatrième pouvoir. La théorie de la séparation des pouvoirs, on prévoit trois, et le quatrième n'est pas institué, il ne correspond pas à grand-chose. En revanche, et c'est une tentation, à mon avis, extrêmement périlleuse pour les journalistes et les médias en général, c'est de vouloir s'installer dans l'influence. C'est-à-dire, un média suffisamment puissant peut prétendre faire pression sur les politiques pour conduire à une décision parce qu'il estime, dans son comité éditorial, dans sa conférence de rédaction, que c'est la bonne décision. Cette tentation de l'influence frappe plus particulièrement les très grands médias et pas tellement des titres comme La Croix, on va dire les choses clairement, mais cette tentation de l'influence est, à mon avis, un piège. Et elle se mesure, cette tentation de l'influence, au moment des présidentielles, de l'élection présidentielle, c'est en général assez net. Quand la prétention à l'influence, c'est quand un quotidien, quel qu'il soit, choisit d'indiquer à ses lecteurs quel est le bon candidat à l'occasion de la présidentielle, prétend indiquer quel est le bon choix. Donc il prétend participer assez directement, par ce message, à la décision. Or, je pense que la distance journalistique qui était le thème qui nous rassemblait ce soir commande précisément de ne pas faire ça, de sortir de cette logique d'influence en disant nos lecteurs et lecteurs sont suffisamment grands à partir du travail pédagogique qu'on fait sur l'actualité et le programme des candidats dans la couverture de la présidentielle pour faire eux-mêmes leur choix sans qu'on éprouve le besoin de leur indiquer ce qui est une forme d'allégeance à l'un ou l'autre des candidats, d'indiquer le bon choix. Je pense que c'est une absurdité. Et là, je pense que les médias qui se livrent à cet exercice le font indépendamment de raisons historiques liées à l'état de la presse française qui a été toujours très marquée par son installation à droite ou à gauche de la ligne politique, c'est-à-dire en gros le paysage de la presse quotidienne française s'est beaucoup construit à partir de choix idéologiques. Or, je terminerai là-dessus, et ça rejoint la question de la distance, dans les études qualitatives faites dans le lectorat des quotidiens nationaux, je parle de ce que je connais le mieux, le reproche le plus communément adressé aux quotidiens nationaux est de proposer une lecture idéologique de l'actualité. C'est-à-dire, quand vous faites des études qualitatives, ce qui remonte du point de vue des gens, c'est ça, arrêtez de faire de la politique, n'arrêtez pas d'avoir des convictions, un point de vue sur le monde, mais arrêtez d'avoir une lecture idéologique du monde, ça nous rebute, nous, en tant que lecteurs. Ça, c'est très net, toutes les études concordent sur ce point, et je pense, effectivement, étant moi-même journaliste politique, de formation en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, une partie des difficultés de la presse quotidienne nationale française s'explique largement par cette lecture très politique du monde, alors que dans leur façon d'aborder les questions... Alors, bien évidemment, là j'enfonce une porte ouverte, La plupart des grands quotidiens ont conscience de cet écueil et tentent de le corriger. Mais il est évident qu'on n'efface pas 150 ans d'histoire comme ça très facilement. Et je pense que là, c'est un autre exemple de manque de distance, mais manque de distance qui n'est pas postulé théoriquement, mais qui remonte des attentes des lecteurs. Ouais.
Merci beaucoup François. Vous êtes parti de cette suspicion, je ne sais pas si elle est partagée par notre auditoire, cette suspicion assez généralisée de l'opinion publique vis-à-vis des journalistes, alors qu'en fait, il y a ce double écueil à éviter, celle d'une diabolisation des journalistes ou bien d'une idéalisation au contraire. Vous avez bien, je trouve, résumé selon vous la réalité qui est plutôt celle d'un contrat, le journaliste qui a besoin d'infos et l'homme politique qui a besoin qu'on parle de lui. Et donc ce contrat, eh bien évidemment, il connaît quelques vicissitudes, il peut être rompu avant de reprendre sous une forme ou sous une autre un peu plus tard. Vous avez mis aussi en lumière, je trouvais ça intéressant parce qu'on n'avait peut-être pas toujours en tête le rôle, l'importance évidemment des entreprises de presse qui doivent être suffisamment capitalisées pour pouvoir se développer, que seuls les grands groupes qui ont de l'argent peuvent le faire, que ça évidemment ce n'est pas sans conséquence pour l'exercice de l'activité de presse. Et puis c'est toute la question du rapport entre l'action gouvernementale et les médias, une action gouvernementale qui a besoin d'être expliquée, donc recherche d'appui, recherche de relais de la part du pouvoir, et à l'inverse, eh bien, la tentation de jouer un rôle, de l'influence de la part des médias avec une lecture politique des événements. Je crois qu'il y a bien matière à continuer le débat avec sûrement tel ou tel point sur lequel plusieurs d'entre nous auront envie de vous poser des questions et peut-être aussi d'émettre des avis différents. Le micro va passer. Merci Cécile. Alors si vous avez l'une ou l'autre question, conviction, n'hésitez pas à lever la main. Nous allons en recueillir quelques-unes d'interventions. Il faut bien pousser derrière le micro. Oui, ça va. Alors, levez bien la main. Oui, par ici, sur ma gauche. Levez bien la main les deux personnes. Voilà, on va commencer par ces messieurs. Parlez bien clairement et fortement dans le micro. Merci.
Je voudrais revenir sur le dernier point évoqué qui me semble très important. Dans quelle mesure les journalistes que vous êtes peuvent-ils se détacher personnellement de leurs convictions dans la présentation des faits et a fortiori dans l'analyse des faits? Je sais bien qu'il n'existe pas d'informations chimiquement pures, mais enfin, entre les émissions notamment politiques de la BBC et les émissions notamment politiques du service public de l'information en France, il me semble y avoir tout l'écart entre l'objectivité et l'orientation. Pourquoi en France? J'ai vécu longtemps à l'étranger et j'ai été le témoin de ces écarts. Question à peine subsidiaire, les yeux dans les yeux, comme dirait M. Cahuzac, est-ce que vous pouvez nous dire que le faire vendre, le faire plaisir à une direction, à une rédaction, ou encore le désir de se faire valoir, ne pollue pas vraiment ou n'a jamais pollué l'exercice de votre métier? Je pense que la réponse est négative, mais j'aimerais vous entendre sur ce point.
Merci beaucoup, ça commence très fort. Alors, derrière, monsieur, derrière, vous aviez, je crois, une question. Oui, voilà, c'est... Parlez dans le micro, ça sera mieux.
Ce n'est pas une question, c'est une observation.
Oui.
Il y a un mot de René Char que j'aime beaucoup, c'est la lucidité, la blessure la plus proche du soleil. Et je crois que dans les observations que j'ai entendues, ce n'est pas tellement le problème du rapport du journaliste avec l'homme politique qui pose question, mais simplement que, comme vient de le dire la troisième personne qui est sur cette estrade, les journaux appartiennent à des propriétaires et que les journalistes, à l'intérieur de leur fonction, ce serait vraiment totalement être idéaliste de croire qu'ils sont libres. Il y a M. Rothschild qui a Libération, je ne sais pas s'il est de droite ou de gauche, mais M. Rothschild est propriétaire du journal Libération. Quelle est la liberté du journaliste de Libération? Elle est extrêmement relative, sauf s'il est vraiment et authentiquement de gauche. M. Dassault est propriétaire du Figaro, journal que j'aime beaucoup, mais la liberté du journaliste à l'intérieur de ce journal est tout de même extrêmement relative. Et pour Le Monde, il est évident que c'est un journal de gauche qui est maintenant entre les mains de M. Berger et dont la politique consiste aujourd'hui à avoir la peau de M. Sarkozy. Donc, quelle est la liberté, non pas de journaliste par rapport à l'homme politique, mais simplement du journaliste s'il veut s'exprimer?
Nous avons voilà, merci, je crois qu'on... Voilà, je crois qu'on a aperçu la pointe, voilà, pour que la parole circule. Merci beaucoup, monsieur. On va peut-être prendre une troisième réaction, question, s'il y en a. Alors, on va faire le tour. Cécile, le tour. Emmanuel, tu lèves bien la main pour qu'on te voit. Voilà, ça fait toujours du sport pour la personne qui porte le micro.
Donc, je vais juste poser une question par rapport à... On a eu beaucoup un exposé sur la France. Par rapport à l'étranger, comment ça se passe à l'étranger? J'avais envie de dire, par exemple, si on regarde l'Angleterre, on sait que Murdoch, qui est le propriétaire du Times, avait dit qu'il voulait Tony Blair. Donc le Times avait défendu énormément Tony Blair. Il y a aussi un certain nombre d'autres quotidiens. Ensuite, il a fait tomber, il a dit « je veux Cameron » et en même temps, en abandonnant l'autre ministre. Et de l'autre côté, il y a une tradition aussi en Angleterre qui est, dans une réunion politique, quand un journaliste pose une question, si la question n'est pas répondue, il y a une espèce de solidarité qui fait que la question est reposée inlassablement jusqu'à ce que l'homme politique réponde. De la même manière, en Allemagne, puisqu'il y a une question de proximité, je crois qu'il y a la rédactrice en chef d'un des grands quotidiens nationaux qui a épousé le président de la République ou un ministre important en Allemagne et qui a dû démissionner. Donc ça, c'est deux autres questions pour l'étranger.
Merci Emmanuel. Si les journalistes ici ne répondent pas à ta question, tu pourras la reposer. Voilà. François, pour démarrer.
Tant de questions, je ne peux pas répondre à tout. Je vais laisser...
Essaye.
Juste sur la question de l'objectivité, qu'elle sert grand mère... des débats sur le journalisme, il y a ce qui est modélisé, enseigné dans les écoles de journalisme, ce que j'apprends à mes étudiants, c'est la distance par rapport à ses propres convictions, la distance par rapport à son appartenance sociale, ses préjugés de classe, etc. etc. On peut faire ce travail. Et d'autre part, dans les règles d'exercice du métier, à la Croix ne passe pas un papier sans que les points de vue contradictoires sur l'information qui est donnée figurent dans le papier, parce qu'il est aussitôt arrêté par le rédacteur en chef qui relit le papier. Donc il y a quand même un certain nombre de règles qui prémunissent contre la tentation, les dérives évoquées tout à l'heure. Après, j'ai évoqué les questions économiques pour ne pas faire trop de langue de bois ce soir... ça me paraît être une question cruciale. Mais j'ai dit aussi dans mon propos que je ne veux pas faire du Bourdieu sans Bourdieu. C'est pas parce que ces titres de presse appartiennent à des groupes de presse qu'il n'y a pas des pratiques d'indépendance, de liberté des rédactions. Et d'ailleurs, du point de vue des investisseurs dans la presse, la pire des erreurs, ça serait de vouloir... exercer des pressions trop fortes, ça serait comme la cocotte minute, ça exploserait aussitôt. Donc si des pressions existent, ce qui doit être vraisemblable, elles sont beaucoup plus discrètes que l'idée qu'on tiendrait la main des journalistes de tel ou tel titre. Voilà ce qu'on peut dire empiriquement. Et d'ailleurs, quand les pressions se font un peu plus fortes, en général, les rédactions se font entendre.
Merci. Peut-être Christophe.
Alors, oui, peut-être déjà sur les mêmes thèmes. Vous parliez de conviction tout à l'heure, c'était vous, monsieur. Je pense que quand on est journaliste, c'est bien de ne pas avoir trop de conviction. Bon, ça ne fait pas de vous quelqu'un de forcément très, très structuré ou intelligent, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas beaucoup de conviction. Je l'assume assez bien. C'est-à-dire que peut-être c'est pour ça que je fais ce métier. J'ai beaucoup de doutes. Et puis, je suis assez. Souvent, dans mes proches me disent que je suis assez insupportable parce que j'ai toujours l'esprit de contradiction. J'ai toujours le contraire, même si je ne le pense pas. au fond, ça m'a un peu façonné. C'est-à-dire que c'est un vrai goût pour le débat, pour la contradiction, pour le contre-pouvoir, etc. Et donc, finalement, au bout d'un moment, moi, quand j'ai travaillé au Monde, par exemple, après, je vous parlerai des actionnaires, je trouvais que mes collègues de travail avaient trop de convictions. Voilà. Je trouvais que je me sentais pas comme eux. Je faisais pas ce métier pour imposer mes points de vue ou écrire un article dans un certain sens. Militer, par exemple. Il y a beaucoup de militants au Monde quand j'étais. C'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'était en 95 quand j'ai commencé là-bas. Donc, ouais, je m'identifiais pas. Il y a beaucoup de collègues auxquels je m'identifiais pas parce que je comprenais pas pourquoi ils faisaient ce métier. Voilà. C'était plus des militants et. Bon, je m'en vante pas, c'est juste comme ça. Je suis peut-être pas très structuré comme garçon, je n'ai peut-être pas beaucoup de convictions. Donc je ne suis pas très gêné, mais peut-être que voilà. Après, sur les actionnaires, moi j'ai eu de la chance d'avoir des expériences très diverses dans des groupes de presse très divers. Un journaliste donc détenu par ses propres journalistes, à l'époque ça l'était, donc Le Monde. Un groupe de presse indépendant, comme un peu celui auquel Jérôme a la chance d'appartenir. C'était le groupe Next Radio TV. Qui détenait RMC, BFM, BFM Business, qui cotait en bourse, dont la firme de référence est le patron, Alain Veil, il doit avoir 30% du capital, et le reste du capital est dans le public. Bon. Donc, il n'y avait pas de pression industrielle. Et puis maintenant, je suis à TF1. Alors, je me suis dit, oula. Déjà, j'étais un peu surpris, parce que quand je suis arrivé avec c'était un peu concomitant avec avec cette histoire de livre, je me suis dit, oulala, mon actionnaire qui vient de me recruter se retrouve avec un journaliste, chef de service politique, avec une plainte de la compagne du chef de l'État, une lettre du ministre de l'Intérieur, et pourtant mon actionnaire négocie tous les jours des contrats de bâtiments et travaux publics, des licences de téléphonie mobile. Bon. Et j'étais très étonné, d'abord qu'il me garde, qu'il ne me vire pas au bout de 15 jours. Bon. Après, j'ai compris. Après, j'ai compris. J'ai compris que c'était peut-être vrai dans les années 80, 90, ce débat sur les actionnaires. C'est peut-être vrai pour la presse écrite, parce que c'est des structures plus petites. Et après tout ce que vous disiez sur les journaux, c'est des journaux d'opinion en France. Voilà, il y a des journaux de gauche, journaux de droite. Les gens, quand on achète un journal, on sait pourquoi on l'achète. On sait parce qu'on va s'y sentir bien. Parce qu'on achète Libé parce qu'on est à gauche, on achète Le Figaro parce qu'on est à droite. C'est confortable. Bon. C'est comme ça, c'est la presse écrite. Quand vous êtes dans des médias audiovisuels, vous devez vous adresser à tout le monde. Donc, mon actionnaire, il veut qu'aux 20h, il y ait de plus en plus de gens qui le regardent. Et de fait, depuis qu'on a changé la rédaction en chef, le présentateur, ben, on a de plus en plus de téléspectateurs. Et en fait, ce que veut mon actionnaire, c'est que je parle à tout le monde et qu'en plus, on ait l'air d'être indépendant par rapport au pouvoir, même s'il y a peut-être des pressions sur les contrats de BTP et de téléphonie mobile. Mais finalement, le plus important pour lui, sur TF1, c'est qu'il y ait des recettes publicitaires. Et c'est très sain, les recettes publicitaires. Parce que ça veut dire que plus vous êtes nombreux à regarder une chaîne, plus il y a de recettes publicitaires, plus l'actionnaire est content. Et donc, l'actionnaire, il ne va pas se priver de la moitié des Français. Donc, il va vouloir une information. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 20 ans, peut-être, où c'était le début. Les groupes industriels rentraient dans le capital des journaux, tâtonnaient, pensaient en faire un instrument de puissance. Peut-être que Bernard Arnault, il est rentré dans Les Échos parce qu'il pensait qu'il en ferait un instrument de puissance. Peut-être qu'il n'investit pas, parce que justement, il s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Et donc, je pense que c'est le contraire dans des groupes comme Bouygues. Enfin, en tout cas, où je suis là, c'est que maintenant, notre intérêt, c'est d'avoir une image d'indépendance, d'impertinence, parce qu'il y a ce désamour des Français pour les médias. Et plus on sera un média qui a l'air d'être inféodé à des puissances financières ou politiques, moins on nous regardera. Et donc, je suis très optimiste, contrairement peut-être au sentiment ambiant sur les médias et la presse en France. Je pense que cette révolution a pris du temps, mais je suis très très optimiste sur le fait que, pas tellement parce que les journalistes non plus sont des frondeurs, oui, ça nous fait plaisir de nous dire ça, mais il y a un intérêt objectif et capitaliste à ce que les médias soient de qualité et soient libres et indépendants. Voilà. C'est encore plus fort que la fronde qui existe bien sûr, mais c'est encore plus fort que ça. Voilà.
Non, ce qui ressort de tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, c'est que le journalisme est une activité humaine, que l'économie est une activité humaine, ce sont des activités qui sont exercées par des hommes, des femmes qui ont des liens, qui se rencontrent, qui se fréquentent encore une fois, et qui donc sont soumis à des conflits d'intérêts, notre travail, et ça j'en ai conscience, ça nous arrive d'être soumis à des conflits d'intérêts. Christophe le disait, j'ai la chance d'appartenir à, enfin, de travailler pour une entreprise qui n'appartient pas, enfin qui a un actionnaire indépendant, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas soumis à la pression du politique. Bien au contraire, ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est que ces questions doivent être vraiment abordées sans angélisme, c'est-à-dire que effectivement, le journalisme chimiquement pur n'existe pas, et je vous répondrai les yeux dans les yeux, monsieur, qu'effectivement, faire vendre, se faire plaisir, se faire valoir, ça peut arriver, cette tentation, je veux dire, parce que le journalisme est une activité humaine et que la politique est une activité humaine. Je terminerai juste sur un petit point, non pas de désaccord, mais une nuance, puisque il se trouve que j'ai des convictions à plusieurs niveaux qu'il m'arrive et que je pense qu'il est bon aussi. Alors c'est vraiment un petit point de divergence, mais je l'ai observé par exemple sur le débat récent qui a beaucoup occupé les médias ces derniers mois, si vous voyez ce à quoi je veux faire allusion. Dans une rédaction, c'est bien qu'il y ait des convictions différentes parce que précisément on parle. Et j'ai pu observer notamment dans mon entreprise que ces convictions peuvent s'exprimer sans passion et que c'est sain et que c'est bon et que précisément chacun d'entre nous peut prendre de la distance par rapport à des questions qui sont évidemment passionnelles. Pour terminer, je suis parfois un peu désespéré par parfois un peu le sentiment que mon activité de journaliste politique me pousse à être un peu cynique par rapport à ce que je vois, par rapport au comportement que j'observe. Et je fais appel dans ces cas-là, François a souligné le fait que j'avais commencé dans une excellente revue il y a de cela une quinzaine d'années, croire aujourd'hui, à mes convictions profondes et à une phrase que je me répète souvent d'un grand journaliste politique et d'un grand romancier qui était François Mauriac, qui disait quelque chose peu ou prou: malheureux est l'homme dont l'espérance n'est que politique. L'homme religieux a la possibilité, je cite de mémoire, de revenir en lui. Il est un poisson des profondeurs. Et je crois que moi, mon salut, en tout cas, je le trouve là aussi. Petit témoignage personnel pour clore cette intervention.
Merci, Jérôme. Alors, il y a une question sur laquelle il serait peut-être bon de revenir, c'est celle d'Emmanuel. C'est quand même la question du modèle étranger, Angleterre, Allemagne, d'autres manières de faire.
Je pensais à quelque chose en vous écoutant, c'est que, effectivement, ça a été souligné par François Hernandez tout à l'heure, les actionnaires en France sont bien souvent des grands industriels qui prennent part à la commande publique, mais votre question prouve que le problème n'est pas seulement là. Rupert Murdoch, à ma connaissance, n'a pas d'intérêt industriel autre que dans la presse. Alors peut-être que je ne connais pas bien le secteur, mais à ma connaissance, il n'en a pas. Et précisément, il exerce ce pouvoir d'influence. Donc vous voyez que les choses sont sans doute un peu plus compliquées. Et d'une certaine manière, et là vraiment, c'est pas pour faire de la langue de bois, mais j'ai travaillé à Europe 1, qui appartient au groupe Lagardère et qui pendant très longtemps... c'est plus le cas maintenant, mais était actionnaire de ADS. Je crois que bizarrement ça nous préservait aussi d'une certaine manière parce que l'actionnaire se gardait bien de donner quelques consignes politiques, en tout cas publiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pression, mais d'une certaine manière, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, et à l'époque je n'étais que simple reporter, et j'imagine que dans des strates qui me dépassaient très largement, il pouvait y avoir des jeux plus complexes. Mais voyez, les choses sont plus subtiles que ça.
Peut-être pour répondre à cette question, alors, sur le comportement des presses étrangères, ce que vous dites sur le fait qu'on repose inlassablement la même question jusqu'à obtenir une réponse, c'est effectivement très simple, mais justement ça dénote peut-être qu'en France il y a cette déférence par rapport au pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait le faire, mais je pense que voilà, personne ne le fait parce qu'il y a une sorte de déférence. Le politique n'a pas répondu, donc on passe à autre chose. Je trouve ça effectivement dommage. Après, vous parliez de l'aspect vie privée-vie publique en Allemagne. Bon, je vous renvoie à un chapitre entier de mon livre sur ce sujet. Effectivement, je pense que Il y a des comportements tolérés en France qui ne devraient pas l'être. Voilà. Je pense que ça nuit et aux politiques, à leur image, et à notre métier. Donc je pense qu'effectivement, quand on est en conflit d'intérêts, on résout le conflit d'intérêts. Bon. Mais je suis l'impression d'être le seul à dire ça, en fait. Donc, non, mais c'est vrai.
D'accord.
Voilà. Là encore, pourquoi est-ce que c'est choquant de dire que la compagne de l'État doit pas être d'abord la maîtresse d'un premier secrétaire du Parti socialiste ne doit pas suivre l'actualité du PS dans un magazine. Je ne vois pas pourquoi c'est pas une évidence pour tout le monde. Et ensuite, par exemple, moi, il y a 15 jours, j'étais très choqué d'une interview du chef de l'État dans Paris Match où travaille sa compagne. Voilà. Mais bon, je ne fais pas de politique, c'est juste que...
Vous voyez que vous avez des convictions.
Journalistique, oui.
Voilà, on va peut-être reprendre leur avance. On va reprendre peut-être deux questions. Voilà, levez bien la main, voilà, juste à côté. Et puis, on aura une tout au fond.
Oui, vous avez dit que vous formiez des jeunes journalistes. Mais comment faites-vous pour leur enlever toute leur éducation familiale, leur bain social, leur bain éducatif, scolaire, parascolaire, enfin, je me demande vraiment comment vous faites pour,
faire abstraction.
Pour parvenir à les isoler mentalement, effectivement et à être bon dans ce domaine. Et c'est peut-être miraculeux, mais vous nous dites comment vous faites, s'il vous plaît. Et sinon, je voulais savoir, alors là, c'est plus provocateur, peut-être, je ne sais pas, la pièce 62, si c'est juste un jeu de la remettre au programme. Et je voulais savoir si vous pensez qu'un jour, M. Valls osera se parler avec, enfin, se laisser inviter, ou voilà. Quel est le jeu? Comment va continuer le jeu?
Voilà, là, une question tout au fond, et puis on terminera par celle de Bordeaux qui attend, nos amis de Bordeaux attendent qu'on puisse répondre à leurs questions.
Oui, c'était, je ne sais plus votre nom, mais le deuxième intervenant a parlé justement de ce travail de contradiction, et je voulais savoir ce que pensaient les trois intervenants de justement ce rapport de contradiction au pouvoir. Est-ce qu'elle est toujours réellement constructive ou non?
Merci. Voilà, le micro va revenir ici. Ça laisse le temps nos interlocuteurs de réfléchir à leur réponse. Voilà, devant. Voilà, la question de Bordeaux. Parle bien et fort.
Oui. Voilà. Donc il y a beaucoup de questions à Bordeaux, et notamment on s'est beaucoup interrogé sur la formation effectivement des journalistes, mais vous y avez un peu répondu. Sinon, on s'intéresse sur la question de vos rapports avec les journaux satiriques, et notamment à l'heure où toute parole politique fait partie de stratégies de communication, le rôle décalé comme peut l'être le petit journal de Canal+ ou le Canard Enchaîné ne se révèle-t-il pas finalement encore plus essentiel pour aider les citoyens à décrypter ou déconstruire les stratégies des politiques. Voilà.
Merci Bordeaux. Voilà, je ne sais pas, il y a plusieurs choses qui vont un peu dans les sens différents.
Peut-être répondre. Alors, je ne veux pas être le pisse-froid de la réunion ce soir, mais quand même, sur la question de la dérision en politique, moi, je trouve dramatique, et je le dis très honnêtement, que des générations entières n'est plus de socialisation politique autrement que par les guignols de l'info ou par la dérision. Très honnêtement, je peux être rigolard, ça se voit pas forcément tout le temps, mais je peux être rigolard, mais je voudrais insister là-dessus. La culture politique, comme n'importe quelle culture, s'acquiert par la lecture, par la compréhension des enjeux, etc. Parce que la dérision en politique, elle gomme notamment une chose... assez systématiquement, c'est le sens de l'intérêt général. Son ressort est le cynisme, la lutte des intérêts, etc. Donc, la dérision en politique ne porte pas de discours sur l'intérêt général, n'est pas formatrice sur cet aspect du jeu politique. La démocratie, c'est aussi une éthique de la discussion, les points de vue sont tranchés, le débat est rugueux, et par moments, ce n'est pas seulement des procédures, c'est aussi parfois un consensus qui se dégage sur la bonne décision.
Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le petit journal, par exemple, je trouve que c'est un excellent exercice justement de décryptage de la politique. Et c'est pas, ils ne sont pas dans la dérision, ni... ma fille, par exemple, qui a 12 ans, regarde tous les jours le petit journal. sais pas si c'est très pédagogique. En tout cas, elle a un sens politique extrêmement aiguisé et par ce petit journal, parce qu'elle est capable. Elle aime beaucoup le 20h aussi, mais du coup, elle décrypte. Non, mais c'est vrai. C'est le petit journal, c'est un exercice de décryptage. Oui, elle aime bien la politique. Bon, assez efficace parce que effectivement on est souvent dupe, ce que tu disais très bien Jérôme, enfin on n'est pas, on risque d'être dupe des exercices de communication politique, du système des cartes postales, de l'histoire qu'on raconte aux Français en permanence, et leur boulot, pas seulement eux, mais ils ont quand même justement réussi à casser ces codes-là, montrer ce qu'il y avait derrière, à prendre en défaut les politiques, et pour beaucoup, à mon avis, d'enfants qui ont du mal à s'intéresser à la chose publique et à la politique, ça peut être un point d'entrée assez efficace. En tout cas, moi, j'ai constaté que c'était très efficace et que ça n'entraînait pas un cynisme ou un désintérêt pour la politique, mais au contraire, un regard particulièrement acéré et distancié par rapport à la chose publique. Donc, je ne sais pas si l'exemple est généralisable. En tout cas, moi, j'ai jugé efficace. Peut-être je laisse Jérôme parler, mais pour répondre, puisqu'il y a une question qui m'était directement adressée sur la pièce 62, bon... on l'a remise dans le circuit parce qu'on était quand même diffamés pour le coup. On nous traitait de menteurs, donc c'est pas très agréable. Donc on a voulu la remettre dans la procédure parce que on n'acceptait pas d'être traité de menteur par le ministre de l'Intérieur. Après, puisque je suis coutumier de griller du off, je vais en griller un pour vous. Je l'ai vu il y a 15 jours, donc il était invité du journal de 20h. Et donc ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, depuis la lettre d'ailleurs. Et donc je lui ai dit bonjour parce que je l'ai accueilli en bas. Et il m'a regardé, il m'a dit ah, c'est pour toi qu'on s'est pas vu. Je dis oui, en effet. Il me dit « Ah oui, je vous ai traîné en justice la dernière fois. » Et je l'ai regardé, je dis « Oui, mais vous avez retiré votre plainte. » Et là, il dit « Ah, oui, c'est vrai. » Et hop, il est parti. Et après, on a discuté pendant un quart d'heure, tout à fait librement, comme avant. Donc voilà. Il faut... C'est pour ça que c'était une remarque que je voulais faire tout à l'heure à Jérôme. Il a raison de dire que souvent, les politiques sont la séduction avec le journaliste, contrairement à l'image qu'ils peuvent donner. Etc. Mais quand la séduction ne marche pas, ils passent au rapport de force. Et là, il faut être plus fort qu'eux. Voilà.
Et ça me permet de rebondir sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur pouvoir contre pouvoir. De fait, nous sommes parfois, dans notre métier, amenés à ne plus être que des observateurs, mais à rentrer dans l'arène. Il arrive qu'on soit l'objet, effectivement, de ce rapport de force et qu'on ait à se confronter à eux, soit parce qu'on a écrit quelque chose qui leur déplaît et qu'ils nous en font part, c'est rare. Soit parce que on a diffusé une information. Je me souviens, j'ai des confrères qui ont sorti ce scoop assez extraordinaire sur les triches de 2008 au Parti Socialiste. Ça a été d'une violence extrême avec les trois quarts du Parti Socialiste, y compris les victimes de la fraude, parce que des journalistes avaient osé dire quelque chose qui était censé rester dans la famille. Et dans ces cas-là, les journalistes font l'objet d'une... on ne risque pas notre peau, encore une fois, mais en tout cas d'une grande pression. Je voudrais répondre sur la question des convictions, comment isoler ces convictions. C'est très simple, je pense que nous travaillons par le travail, par la préparation. La mise à distance, moi quand je prépare une interview, c'est pour une heure d'interview, c'est souvent des heures de travail, ne serait-ce que pour prendre la mesure à la fois du point de vue de la personne que je vais interviewer, des points de vue qui peuvent s'y opposer, et lorsque je suis dans le studio et que j'interview quelqu'un, je joue le rôle du journaliste. Je ne suis pas, c'est pas moi, je joue un rôle. Et ce rôle, il faut que je l'ai préparé. C'est, voilà, la mise à distance de mes convictions, elle se réalise par le travail et par la préparation.
Voilà, il y aurait beaucoup d'autres questions, mais on va en rester là. Je voudrais remercier en votre nom nos invités pour cette soirée, je crois, très intéressante. Cette soirée qui nous a aidé, je crois, à mieux comprendre les joies et les difficultés de votre métier. Alors, on lira La Croix, on écoutera RTL et on regardera TF1 et LCI un petit peu différemment dans les jours qui viennent. On pensera aussi à vous demain tout particulièrement. Merci de votre fidélité. Rendez-vous au mardi 1er octobre prochain pour la prochaine soirée d'éthique publique. Le sujet n'est pas encore évidemment choisi, mais faites-nous confiance. Et en tout cas, merci de votre fidélité et très bon été à tous. Thank you.